Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Moins d'amour, cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. À la technique aujourd'hui, Céline Bonhomme et Olivier Daligo, nous accompagnent, et assistés de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Oh, une petite humeur, mais peut-être pas totalement Copenhague. On sent bien quand même un petit effet de saturation sur Copenhague, sur l'environnement. Ras-le-bol les marchands d'apocalypse. Alors, je les mets où, ceux-là, dans la poubelle verte? Les Cassandres et le syndrome du Titanic, je les mets où, dans la poubelle jaune, hein? Bon, on aura quand même un petit couplet Copenhague avec Nathalie Fontrel pour la réchauffer parce qu'elle a très, très froid là-bas. Alors, auparavant, tenez, on tombe les moufles et le bonnet et on enfile la chemisette. Je vous emmène à 5000 km au Sénégal, dans les villages de Casamance, où là c'est la fin de l'hivernage, la fin de la saison des pluies, et on fait la fête. Pourquoi on fait la fête? Parce qu'on espère bien que cette fois, on a sauvé la mangrove, et avec elle donc un petit coin de planète. Je vous explique, la mangrove c'est donc ce marécage côtier que l'on trouve sous les tropiques, et où, au gré des marées, l'eau douce le dispute à l'eau salée. Alors c'est un environnement qui est difficile pour la plupart des plantes, hormis quelques espèces particulièrement douées. À commencer par le palétuvier rouge, Xerophora de son petit nom, arbre emblématique de la mangrove avec des racines en échasse qui plongent dans l'eau et s'accrochent dans la vase. Et ce sont des racines qui sont capables de dessaler l'eau de mer et de puiser dans l'air l'oxygène qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Bref, le palétuvier, c'est un petit écosystème clé en main au cœur de la mangrove où les huîtres, les crabes, les pélicans, les hérons et autres pensionnaires trouvent le gîte et l'assiette. Un refuge aussi pour les jeunes poissons qui grandissent en toute tranquillité à l'abri des prédateurs. Une protection enfin contre l'érosion du littoral, les tempêtes et les raz-de-marée. Alors le problème c'est que jusqu'il n'y a pas si longtemps, les palétuviers, on avait plutôt tendance à les ratiboiser pour faire du bois ou bien de la place pour planter des rizières, des élevages de crevettes ou bien des hôtels 4 étoiles. Bilan de l'opération, on a détruit quand même quelques-uns des écosystèmes les plus riches de la planète. D'où l'opération très positive « Plante ton arbre » lancée il y a 4 ans par l'ONG Oceanium de Dakar pour restaurer les mangroves de l'Afrique de l'Ouest. Avec très peu de moyens au départ, parce qu'on comptait donc sur la bonne volonté des villageois qui se rassemblaient à marée basse pour planter alors chacun quelques centaines de bébés palétuviers. Et depuis, la mangrove a repris des couleurs et l'initiative a fait boule de neige. Ce qui fait qu'on est passé de 60 000 palétuviers plantés en 2006 à 35 millions cette année. Donc le tout avec la participation de bénévoles, hein, 70 000 villageois, qui ont compris qu'on est rarement mieux servi que par soi-même. Et que pour faire revivre la mangrove, c'était la meilleure façon aussi de faire revenir les huîtres et les poissons. Comme quoi, à l'heure où les regards du monde entier sont tournés vers la petite sirène danoise et ses promesses de dons, les habitants d'Afrique de l'Ouest, eux, ne restent pas les bras croisés. Nos négociateurs du climat récalcitrant qui ne cessent de mégoter sur l'aide à apporter aux pays du Sud, peut-être que si on les emmenait pour une promenade en pirogue sous les palétuviers, ça leur changerait les idées. On va faire un peu de prospective aujourd'hui, ça va être un peu le dossier de CO2 Mon Amour, avec les promesses des énergies renouvelables, c'est le titre de la recherche de ce mensuel du mois de décembre. Je reçois son rédacteur en chef adjoint, Luc Allemand, bonjour.
Bonjour.
Alors Luc Allemand, juste quelques mots, on sait très bien qu'aujourd'hui les énergies renouvelables, on en parle énormément dans les médias, on est dans l'épaisseur du trait, dans la réalité aujourd'hui de la production, mais c'est un boom absolument incroyable, c'est en train de se développer à une vitesse folle.
Oui, vous venez d'évoquer Copenhague. Il y a déjà une première raison qui est de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2. Donc les énergies renouvelables n'en produisent pas. On en parlera tout à l'heure. D'autre part, l'augmentation des prix du pétrole motive aussi pour une utilisation de ces énergies. Et puis enfin, on arrive aujourd'hui à avoir des sources d'énergie renouvelable qui sont rentables, qui sont intéressantes économiquement, et qui, certes, aujourd'hui, sont encore peu développés, mais qui ont une marge de progression énorme.
Et on peut dire que d'ici 20 ans, c'est à peu près quand même Enfin, là, je parle de gens qui sont sensés, qui connaissent bien le sujet. On peut estimer que 30% à peu près de l'énergie mondiale pourrait provenir donc du photovoltaïque, de l'éolien et de la biomasse principalement.
Voilà, de la biomasse. On a déjà beaucoup d'hydroélectricité en France, par exemple.
Bien sûr.
Donc, en complétant avec, essentiellement avec l'éolien, le photovoltaïque et puis, vous l'avez dit, la biomasse. Oui, on pourrait raisonnablement arriver dans un premier temps peut-être à 20% de l'énergie et puis peut-être d'ici 2030 à une trentaine de pourcents.
Alors on va détailler tout cela, principalement photovoltaïque, éolien, puisque donc c'est les dossiers principaux de ce numéro de la recherche. Auparavant, on va rejoindre Jean-Marie Pell, parce que Jean-Marie Pell, t'es là, j'ai presque dire un bouquet de roses à la main. Cher Jean-Marie, votre été, qui est un petit peu passé quand même maintenant, a été illuminé par la rose.
Oui, alors étonnamment, oui. La municipalité de Vittel m'a demandé d'être le parrain d'une rose qui leur a été dédiée.
C'est-à-dire qu'elle porte votre nom ?
Non, pas celle-là. Ah bon. Il y en a une autre. Mais celle-là, elle est très belle. Elle a une couleur pourpre, forte, rouge, très belle. Elle est très belle.
Et vous allez arroser ça avec de l'eau ?
Oui, bien sûr. Elle est dans mon jardin. Oui. Elle est dans mon jardin. Et puis après, je l'ai mis à côté d'une autre rose que j'ai parrainée il y a 2 ans à Saint-Galmier. Mm-hmm. C'est là qu'on fait la badoie.
Oui.
Et bien, j'ai eu la surprise qu'on m'a dédié une rose.
Oui.
Et on me l'a envoyée. Alors, je l'ai plantée à côté de celle de Vittel et de Saint-Galmier.
Bonjour, je suis la rose qui s'appelle Jean-Marie Pell.
Oui, elle m'a plu parce qu'elle est d'un rose parfait. C'est une sorte de grand églantier, tout rose. Et moi qui adore le rose, oui, j'ai beaucoup aimé ma rose. Et puis, elle avait ma couleur préférée. Alors, ces roses ont des défauts. Elles ont des défauts, elles n'ont pas d'odeur.
Comme vous, pardon.
Oui, comme nous.
Oui, comme nous.
Comme nous.
Oui.
Elles n'ont pas d'odeur. Ces roses ont le même défaut que les roses des fleuristes, qui sont des roses qui ne sentent pas. Ce sont des roses qui doivent, en étant coupées, tenir longtemps, ne pas perdre misérablement leurs pétales le lendemain du jour où on les a offerts, parce que ça ne serait pas très correct, mais elles ne sentent pas. Figurez-vous qu'on ne sait pas sélectionner les odeurs. L'odeur de la rose, elle provient de cellules spécialisées qui élaborent de l'essence sur les pétales. Et ça, on ne sait pas la sélectionner. Donc, on sélectionne la rose pour sa couleur, pour sa forme, pour sa beauté, mais on ne sait pas la sélectionner pour son odeur. C'est pour cette raison-là que les roses des fleuristes, pour le moment, elles ne sont pas odorantes.
Les obtenteurs, comme on dit, ne savent pas faire.
Non. 25 000 variétés de roses, c'est considérable, hein. Elles proviennent pratiquement de plusieurs espèces de roses sauvages qui ont été croisées avec la fameuse rose de Chine qu'on appelle la rose thé. Mmh. Parce que la rose de Chine a un avantage, c'est qu'elle fleurit très longtemps dans la saison. Alors que, comme vous le voyez bien, les églantiers, ça fleurit 3 semaines.
Alors, on l'appelle la rose thé parce qu'elle a une odeur de thé.
Oui, parce qu'elle a une odeur de thé, absolument. Et on l'a surtout beaucoup développée en hybridation, parce qu'elle a permis d'avoir des roses qui durent longtemps. Mmh. Et dans les jardins, c'est évidemment tout à fait appréciable. Alors j'ai donc dans mon jardin tout ce petit monde. Et puis, alors j'apprends par la presse qu'il y a à Strasbourg une exposition où on présente des œuvres du 15e siècle de peinture rhénane, dont notamment des vierges aux buissons de roses.
Alors ça vous plaît.
Alors ça, ça
ah
me
bah
plaît
oui,
au-delà de
bien
tout.
Bien sûr, vous galopez à Strasbourg.
Alors j'ai vu
oui,
cette vierge aux buissons de roses. Comment est-elle, cette vierge ? Ben d'abord, elle a les pieds sur des fraisiers et sur des muguets.
Oui.
Pourquoi les fraisiers ? Parce qu'on croyait que les petits-enfants qui meurent en bas âge, ce qui était très fréquent évidemment oui, autrefois, leur âme est transportée immédiatement au ciel. Mmh. Ils n'ont pas fait de péché, les petits-enfants, dans des fraises.
Ah bon ?
Dans
les fraises.
Des fraises
qui recevaient.
Oui, qui recevaient l'âme des petits-enfants.
De l'âme des petits-enfants.
Mais ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'on trouve la même chose chez les Indiens d'Amérique.
Oui.
Ils disent la même chose. Ils disent aussi que l'âme des morts part dans les fraises et qu'il ne faut pas couper intempestivement les fraises parce qu'on peut faire du tort à un mort qui ne regagnerait pas le grand tout. Si on prenait la fraise.
Donc
on ne mangeait pas les fraises.
Dans l'expression « aller aux fraises », maintenant, ça a une autre signification.
Oui, c'est certain. Il y a eu des retombées, si l'on peut dire. Et puis alors, derrière elle, il y a les très fameux buissons de roses qui sont très jolis. Et ici, la Vierge donne à l'enfant Jésus une rose blanche. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup ces peintures un petit peu naïves, avec couleurs très fortes, très belles, très soutenues. Alors, je me suis réjoui de toutes ces roses qui me sont tombées dessus de tous les côtés, tout en même temps. Et puis, comme c'est le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes, je rappelle que ceux qui vont à Lourdes, et qui ne sont pas forcément d'excellents botanistes, n'ont peut-être pas remarqué que sous la statue, il y a un églantier. Et que l'églantier était déjà là à l'époque des apparitions, aux sauvages naturellement. Et que les apparitions ayant eu lieu en hiver, l'églantier n'était pas fleuri. Non. Alors le curé de Lourdes, qui ne voulait pas croire les histoires de la petite, lui a dit, écoute, tu dis à la dame qu'elle fasse fleurir l'églantier. Si l'églantier fleurit, je te croirai. Voilà. Il n'a pas fleuri. Et donc c'est intéressant, parce qu'à travers ces vierges et ces roses, il y a l'idée de la rosace des cathédrales, il y a l'idée du rosaire, vous voyez que la rose elle est partout là. Oui. Mais avant que la rose se virginie, si je puis dire, elle était un symbole d'érotisme. Et au Moyen-Âge,
le roman de la rose.
Vous vous souvenez? Le roman de la rose, on le lisait au lycée, mais on lisait le tome 1.
Oui, parce que le 2, c'est très chaud.
Le 2, c'est hard.
Voilà.
Non, on ne lit pas le 2 au lycée. Non.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, là-dessus, vous allez en faire vendre 50 000 de plus.
C'était un symbole d'érotisme. Alors, confidence. Oui. Il y a donc à côté... l'une de l'autre dans mon jardin, les trois roses dont je vous ai parlé, deux dont je suis parrain et l'une qui a mon nom. Et puis, il y a aussi les trois vierges au buisson de roses. Alors, je n'ai pas pu mettre dans mon jardin la planète qu'on m'a dédiée cet été aussi.
On m'a dédié une planète.
Vous êtes
le papa d'une planète,
oui.
Jean-Marie Pell,
c'est les Américains qui me l'ont dédié. Oui, alors j'aurais bien voulu pouvoir aussi avoir la planète parce que j'aurais mis la rose sur la planète et j'aurais donc été dans le cas du petit prince.
Oui,
ça aurait été très joli.
Eh bien, écoutez, Jean-Marie, je pense qu'on va bientôt visiter votre jardin, qui est quand même aussi une espèce de monument là, ici en Lorraine. Et puis, un grand merci de nous avoir fait partager votre bonheur des roses en ces périodes, on va dire. De fait, ça va parfaitement. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jean-Marie.
Au revoir à tous. Au revoir Denis. If I tried to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean of the sea. If I tried to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean of the sea. Say the ocean of the sea. I say the ocean of the sea. Rhythm. It's love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, you. Whoa, whoa, whoa. Color is lust because all of the sexual things we do. Trust you to make them all colorful. Hey, yeah. Hey, yeah, you. Whoa, whoa, whoa. I like to put you in such a romance. Take you down to Paris, France. Leave the cafes and the bars. Walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Rhythm is love. Baby, y'all. Rhythm is love.
cafés and the bars, walk the wintry boulevards.
Choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice était Kezia Jones sur France Inter dans C'est haut de mon amour. Le rythme est amour, rhythm is love. Mais oui, bien sûr, et donc après notre page de rose, c'est-à-dire de nature avec Jean-Marie Pelt, eh ben nous plongeons dans l'environnement avec nos énergies renouvelables, petit préalable. Énergie renouvelable, ça doit être le complément des efforts d'économie d'énergie avant toute chose et d'une meilleure efficacité énergétique. Alors, où en est-on ? C'est intéressant d'avoir votre recul, j'allais dire, un peu mondial. Luc Allemand, donc rédacteur en chef adjoint de la recherche, les promesses des énergies renouvelables. Nous allons plonger notre nez dans le photovoltaïque. On va rappeler quand même que un homme qui s'appelait donc Monsieur Becquerel a été donc à l'origine en France de ses premières découvertes. C'était Henri en 1839. Il travaillait sur les piles électrochimiques. Il a remarqué que la quantité d'électricité libérée variait en fonction de la luminosité ambiante. Donc on a appelé ça l'effet photovoltaïque, l'effet photoélectrique, tout ça pour rappeler qu'on a quand même été quand même assez bon. Et puis même dans les années 70, 1970 cette fois-ci, la France était vraiment en tête, était pionnière dans les énergies solaires.
Oui, à l'époque, la recherche française se tenait tout à fait bien. En fait, les premières photopiles utilisées vraiment pour produire de l'électricité, c'est aux États-Unis dans les années 50. Hein, c'est son laboratoire Bell. Qui à l'époque était très en pointe sur l'électronique, mais assez vite, la France a développé des recherches en ce sens-là. Malheureusement, ça s'est arrêté, je dirais, donc, vers la fin des années 70. Bon, milieu des années 70, il y a eu le choc pétrolier, ça a encouragé les recherches, et puis les cours du pétrole ont baissé, d'une part. D'autre part, on a répondu en France au problème de pétrole par la construction massive de centrales nucléaires. Mmh. Et donc l'intérêt pour le photovoltaïque s'est atténué, aussi en partie parce qu'à l'époque, les photopiles qu'on fabriquait avaient des rendements très très faibles. C'est-à-dire qu'il fallait en mettre des très très grandes surfaces pour obtenir l'électricité, alors que une centrale nucléaire, on le sait bien, c'est relativement compact et produit tout de suite une puissance assez élevée.
La France et les grands corps d'État ont fait ce choix du nucléaire, c'était dans les années 70. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, nous rappelle que sur les trois dernières décennies, la part de recherche, là je parle des énergies renouvelables en général, hein, par rapport à l'ensemble des dépenses sur l'énergie, était de 8% et que c'était de 60% donc en direction du nucléaire. Donc c'était de véritables choix, on va dire, de société, parce que la société, en fait, elle n'a pas eu tellement son mot à dire dans ce domaine-là, mais en tout cas, des choix tout à fait politiques. Silicium, quand même, lorsque l'on parle de panneaux photovoltaïques, alors allons-y, rappelez-nous ce que c'est, parce que c'est quand même ce que l'on trouve, d'un point de vue chimique, peut-être en abondance sur la Terre, le fameux silicium.
Tout à l'heure, on était au bord de la mer au Sénégal avec la mangrove. Et oui. Du silicium, on en trouve abondamment au bord de la mer, pas seulement là, mais on en trouve en particulier là. La matière première du silicium, c'est le sable. Mmh. Le sable, alors pas exclusivement, mais est composé pour beaucoup de silice. Donc la silice, c'est un oxyde de silicium. On pourrait dire un minerai de silicium, de la même façon que dans les mines de fer, on trouve de l'oxyde de fer. Dans les mines d'aluminium, on trouve de l'oxyde d'aluminium, qu'on appelle la bauxite. Et donc, tous ces minerais, par des procédés métallurgiques, on fait une opération chimique qui s'appelle la réduction, et donc on les transforme en métaux. Alors le silicium n'est pas tout à fait un métal, mais on peut considérer que c'est le même type d'opération chimique, et donc dans des fours, on va le transformer, on va transformer cet oxyde de silicium en silicium plus ou moins pur.
Alors, on a aujourd'hui, on va dire, deux méthodes sans rentrer dans le détail. Donc, on a les panneaux de silicium, puis on a ce qu'on appelle les couches minces, qui sont peut-être plus technologiques, mais avec moins de rendement, mais en même temps, elles sont moins chères.
Oui, alors, c'est une approche qui a été développée beaucoup plus récemment. C'est-à-dire que le silicium a des propriétés photovoltaïques. Alors, pas tout seul. Si on prend un morceau de silicium pur, on n'a pas une photopile tout de suite. Il faut quand même lui faire subir un certain nombre de traitements. Mais ça, c'est le développement des photopiles au silicium, comme je l'ai dit tout à l'heure, est assez ancien. Plus récemment, les chimistes se sont posé la question de fabriquer des matériaux qui existeraient moins naturellement, donc avec des procédés de fabrication un tout petit peu plus complexes, Donc avec des éléments tels que le cuivre, l'indium, le sélénium. Bon, voilà, donc oui. On obtient aussi des photopiles. Le gros avantage, c'est que, alors que le silicium, il faut en mettre des épaisseurs non négligeables pour absorber la lumière solaire et pour produire de l'électricité.
La couche mince, comme
son nom l'indique, oui, il suffit d'en mettre très très peu.
D'accord. Alors maintenant, aujourd'hui, intéressons-nous à ce marché qui a éclaté, parce qu'en fait, c'est l'économie et la politique qui ont fait décoller le photovoltaïque. On a eu le prix du pétrole, il y a eu beaucoup de subventions aussi quand même sur cette affaire-là, on s'est quand même enfin réveillé. Alors on a un petit coup de chapeau, d'ailleurs je tiens à le dire aussi en France, il y a un laboratoire qui est étonnant qui s'appelle La Réunion quand même. Bientôt, près de 50% de la part de l'électricité en renouvelable, hein, en ce qui concerne la Réunion. Donc, ils nous écoutent en ce moment, là, c'est le matin. L'Inde, 8% de la consommation électrique d'ici 2020 par le solaire. Donc, ça rigole pas. La Chine s'y met. Mais ce qui vraiment a fait décoller, ça a été les aides publiques.
Oui, les aides publiques, et qui sont arrivées aussi à un moment où la technologie a permis de produire des cellules qui avaient un rendement qui devenait acceptable. Donc aujourd'hui, on est pour les meilleures cellules commerciales, on doit être autour de 15% de rendement. Hein, ce qui commence à être pas mal. D'une part. D'autre part, il y a des nouvelles façons de préparer le silicium, si je peux dire comme ça, qu'on appelle le silicium amorphe, qui là aussi a des rendements moindres, mais coûte moins cher à fabriquer.
D'accord.
Et donc, il faut bien voir qu'il y a une conjonction, effectivement, entre des aides publiques, entre l'augmentation des prix des autres sources d'énergie, et puis quand même une progression scientifique et technologique sur ces photopiles. Et des travaux sur tous les aspects, sur l'augmentation des rendements, sur le coût des matières premières, sur la fabrication, et c'est pas fini.
Alors, un homme qui connaît très bien ce sujet, c'est aussi Yves Bruno Civelle, qui est le rédacteur en chef de la revue Système Solaire, qui est aussi le directeur de l'Observatoire des énergies renouvelables. Yves Bruno, bonjour à vous. Voilà, c'est ça, vous êtes là, on vous a récupéré, parce que je sais que vous êtes en Bretagne actuellement. Peut-être dans un premier temps, deux questions par rapport à l'énergie solaire. Idée reçue ou non, un panneau, on dit souvent qu'un panneau donnera autant d'électricité dans sa vie qu'il en a utilisé pour être fabriqué. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, cette affaire-là ?
Alors, c'est radicalement faux, hein. Un panneau, au bout d'un an et demi ou deux ans, aura remboursé totalement sa dette énergétique et il est fabriqué pour durer 20 ans à 25 ans.
Et puis, alors, l'autre question, c'est évidemment après la suite, donc ce panneau solaire devient un déchet. Est-ce qu'il y a moyen de recycler les panneaux solaires aujourd'hui ?
Alors là, Denis, je vais vous raconter rapidement une petite histoire. C'est celle de la centrale photovoltaïque belge de Cheftung. Elle a été construite en 1983. Et parmi les constructeurs, il y avait Jean-Louis Ball, l'actuel directeur des énergies renouvelables à l'ADEME, qui à l'époque était un ingénieur en Belgique. Voilà, il installe une centrale de 63 kW. Cette centrale produit de l'électricité et va alimenter les pompes de la piscine de cet endroit-là. Il expérimente aussi le stockage de cette énergie dans les batteries et même le fait que cette centrale photovoltaïque est reliée au réseau. C'est-à-dire qu'il l'avait mis déjà en place il y a 26 ans, et bien l'ensemble des fonctionnalités. Elle est vieille, elle est démontée. Cet hiver, 90% de la matière a été recyclée. Le silicium a servi à faire des nouveaux modules. Et puis l'aluminium et le verre ont été dans les filières classiques de recyclage de l'aluminium et du verre. Donc quand on sait par ailleurs que ça a coûté ce que ça a coûté, bah c'est 5% du prix de l'installation. Donc voilà, quand on construit aujourd'hui une centrale photovoltaïque, il faut prévoir pour dans 20 ans à 25 ans, le budget égal à 5% du coût total de l'installation à l'époque, pour pouvoir le démonter. Donc la filière, elle est vertueuse. Elle est née de l'environnement, de l'écologie. Elle ne s'est pas posée de problème d'industriel pollueur. Elle a dit « je crée de l'énergie propre ». Aujourd'hui, en fin de carrière, les premières centrales commencent à être en fin de carrière. On recycle. Il y a une association européenne qui s'appelle PV Cycle qui le fait très bien. Puis il y a une autre grande centrale historique, celle de Pellworm en Allemagne, sur une île de la mer du Nord, qui fait 300 kW et qui a été démonté également et recyclé. Donc, il y, n'y a pas de problème sur le recyclage des photopiles.
Non, mais c'est important parce qu'on a ça, on a ces, donc, ces deux idées là qui circulent toujours lorsque l'on parle donc du photovoltaïque. Un autre point, ça va se développer, j'irai où ? Ça va se développer dans les jachères agricoles, sur les toits, par exemple, aussi des hangars, comme par exemple beaucoup d'agriculteurs sont en train de le faire. Ça va être où un peu le lieu de prédilection du photovoltaïque pour vous et Bruno Civelle ?
Alors, en France, on voit les deux dynamiques sortir, c'est-à-dire à la fois sur des jachères, sur des lieux, je veux dire, qui étaient des jachères industrielles, et on en voit aussi sur les toits et les façades des grands immeubles. Alors, soyons clairs, hein, économiquement, pour l'instant, il est plus facile d'aller au sol parce qu'on fait des grandes surfaces, c'est pas trop encombré, on peut concevoir sa centrale, et donc on va avoir quelques grandes centrales au sol en France. Un jour ou l'autre, la question de la terre et des disponibilités de la terre dédiées au photovoltaïque, dédiées à la culture, dédiées au sol, dédiées aux routes, dédiées aux maisons.
Répartition du territoire, là aussi, ne pas être en concurrence avec...
Voilà. Oui. Bon, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à terme, le meilleur hectare photovoltaïque, il est installé sur des hectares déjà bâtis, c'est-à-dire sur des toits. La vision développement durable, la vision environnementale du photovoltaïque, c'est le photovoltaïque composant du bâtiment, composant l'enveloppe du bâtiment et captant du soleil là où la terre est déjà confisquée.
Alors, on a un prix garanti jusqu'à quand ? Parce que bon, cette affaire-là fonctionne, parce qu'évidemment, c'est subventionné largement supérieur au prix du marché. Hein. Moi, si j'achète mon kilowattheure, j'achète en gros à 12, 13 ou 15 centimes du kilowattheure EDF. Je le revends à 60 centimes à peu près. Enfin, c'est une affaire qui est pérenne actuellement pour...
Alors, c'est un tarif qui est pérenne pour le moment. Il va être pérenne jusqu'à fin 2012. Et ensuite, on décrit un processus de décroissance de 9% par an, de façon à ce que le pari immense qui était fait en installant ce tarif, c'était le pari de faire décoller économiquement le photovoltaïque et qu'il arrive au marché. Voilà. Donc, une énergie, fût-elle renouvelable, ne doit pas être subventionnée éternellement. Donc, l'ensemble de la filière est très contente parce que, au fond, autrefois, il y avait des politiques de stop and go. Aujourd'hui, il y a une politique avec un tarif extrêmement bien construit et qui décrit l'avenir sur le long terme. Voilà, jusqu'en 2012, c'est plein pot. À partir de 2012, on décroît de 9%.
Pardon.
Et pendant ce temps-là, eh ben, il faut réussir le pari inverse, c'est-à-dire que le prix a baissé, la production de masse a fait baisser les prix, la recherche sur les couches minces et les premières photopiles, cuivre, indium, sélénium ou tellurure de cadmium, fonctionne bien, ou silicium amorphe, hétérogène, etc. Bon, donc tout est en place, si vous voulez, pour réussir. Donc il ne faut pas s'émouvoir non plus que le coup de booster, il est formidable, hein, faut bien l'avouer. On a un tarif épatant, probablement un des meilleurs du monde.
Alors on vous retrouve dans quelques instants, et là on parlera peut-être aussi d'énergie pour le monde, Bruno Civelle.
Ce que bon,
je vous propose, ben voilà, et donc ce que je vous propose, moi, c'est de continuer tout à fait en musique dès maintenant, et puis on va retrouver après Nathalie Fontrelle à Copenhague, on va vous emmener aussi en Norvège. Enfin, voilà, il y a plein de choses encore dans cette émission.
Là où CO2, mon amour, passe, la pollution trépasse. Et allez. Eh ben quoi, on peut rêver un peu, non ?
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Tu reviens dans le parc, je ne t'attendais plus. Tu reviens sur le lac à la fin de l'été. Tu embarques sous mes yeux, on nous trouble. Rien ne cède, rien ne coule depuis toutes ces années. Je préfère les rivières aux étangs du saline. La violence des courants est le lit qui déborde. J'ai passé tant d'années dans l'ombre à t'aimer. Si je tremble, c'est qu'aujourd'hui, je vais jeter au vent. Tes plus belles lettres, je jetterai au vent. Tes plus belles phrases, que tu ailles au diable. Je connais trop les déserts. Aller au vent, tes plus belles lettres, je jetterai au vent, tes plus belles phrases, que tu ailles au diable, je connais trop les déserts que tu portes. Je ne regrette rien à l'usure, je n'attendais plus rien des jours avec toi. Si l'amour nous quitte sans jamais nous saluer, nous n'avons jamais su l'embrasser. Et ce ciel nous oublie quand il n'y a plus de jour. Et ce ciel nous oublie quand il n'y a plus de nuit. Que deviennent nos prières et les promesses passées? Si je tremble, c'est qu'aujourd'hui je vais jeter au vent tes plus belles lettres. Je jetterai au vent tes plus belles phrases. Que tu ailles au diable, je connais trop les déserts que tu portes. Aller au vent tes plus belles lettres. Je jetterai au vent tes plus belles phrases. Que tu ailles au diable, je connais trop les déserts.
Les plus belles lettres, c'était Da Silva sur France Inter. L'actualité quand même, on en parlait, même s'il y avait un peu un effet de saturation, c'est Copenhague. Une femme qui a très très froid d'ailleurs en ce moment, me semble-t-il, c'est Nathalie Fontrelle. Bonjour Nathalie.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Voilà. Je ne sais pas où il est le réchauffement climatique entre nous.
Ah ben non, vous ne l'avez pas vu. Et donc vous n'êtes pas venu là-bas en mini-jupe ni en maillot de bain parce que. Alors on se demande d'ailleurs comment la petite sirène fait pour ne pas attraper la crève. Hein. C'est un truc absolument incroyable. Alors là, vous avez du monde autour de vous parce que vous êtes en plein à côté de la manifestation. Donc là, des ONG. Racontez-nous un peu ce qui se passe.
Écoutez, on n'est pas tout à fait au milieu parce que pour avoir une liaison avec la valise satellite, il fallait s'éloigner un petit peu. La manifestation vient de s'ébranler là. Elle s'est réunie. D'abord, le point de rassemblement était devant le Parlement danois. Elle se dirige vers le Bella Center, le centre de conférence où se déroulent les négociations sur le sommet climatique.
Alors, Nathalie, maintenant, quand même, bon, on sait que cette affaire-là va sûrement se dérouler dans la nuit du 17, du 18 décembre à la fin. Si on rappelle quand même quelques enjeux, parce que l'acte est en train de se bagarrer quand même sur les questions de fond, c'est-à-dire qui va donner quoi au pays du Sud?
Oui, en fait, l'enjeu, c'est de contenir l'augmentation de la température à 2 degrés. Mais un certain nombre de pays, comme les AOSIS, vous savez, ces petits états-îles qui ont déjà les pieds dans l'eau, puisqu'ils culminent à moins d'un mètre au-dessus des océans, eux réclament que l'on maintienne, que l'on contienne la température à 1,5 degré seulement. Ils ont d'ailleurs élaboré un texte qu'ils ont présenté à la Convention de l'ONU sur le climat. Au total, on a 4 textes aujourd'hui. On a eu d'abord un texte danois, puis un d'ailleurs qui a fait l'unanimité contre lui. Ensuite, un texte élaboré par la Chine, l'Inde et le Brésil, les émergents, les AOSIS dont je parlais à l'instant. Et puis, hier, on a eu un texte qui, lui, émane de la Convention climat et qui, aujourd'hui, sert de base de travail au pays. Alors, dans ce texte, il y a un certain nombre de points qui sont mis entre parenthèses. Et c'est ça, en fait, l'essentiel, c'est que ces points mis entre parenthèses, ce sont eux qui sont les plus importants, les plus difficiles à gérer, à décider. Et ce sont les chefs d'État qui arrivent jeudi et vendredi prochain qui devront trancher.
Est-ce que l'on sent, Nathalie, que le monde de demain est en train de poindre? Ou bien est-ce que c'est encore un peu le monde d'hier et d'aujourd'hui qui va être relooké croissance verte au-delà du fait d'avoir le nez dans le guidon par rapport donc à un traité qui sûrement n'aura pas lieu, mais enfin en tout cas une voie commune. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même assez porteur d'espoir dans cette affaire-là aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans la gravité, dans la peur, dans le côté un peu joyeux? Qu'est-ce qui ressort?
Il y a tout, Denis. Il y a à la fois la peur et à la fois le côté joyeux. Un délégué me faisait cette réflexion hier, c'est que si on prenait un professionnel de la finance qui habituellement assiste à des réunions de l'Organisation mondiale du commerce et qu'on l'immergeait dans cette conférence ici, je pense qu'il aurait l'impression d'atterrir sur la planète Mars. Quand vous arrivez dans le centre de conférence, vous avez des manifestants, vous avez des gens de toutes les nationalités, des ONG qui qui manifestent, qui sont là, qui sont des institutions quelque part, puisqu'on le, on leur a donné l'autorisation d'être présents au sein même du centre de conférence. Et il y a donc à la fois cette joie quelque part, une sorte de folklore, et puis en même temps la gravité. Moi j'ai un peu l'impression, pour avoir vécu la négociation de Kyoto, que les mêmes arguments sont présentés aujourd'hui ici à Copenhague. Vous avez les pays dits en voie de développement et surtout les pays dits en voie d'émergence qui rappellent que les pays industrialisés ont une responsabilité historique dans la situation actuelle. Ce sont eux qui se sont développés en cramant les hydrocarbures, en dégageant des gaz à effet de serre, et donc ils doivent payer l'addition. Alors c'est vrai, c'est pas faux, sauf qu'aujourd'hui le premier pollueur du monde c'est la Chine. Et que parmi...
Oui, je vous en prie, allez-y, allez-y.
Je vous écoute.
Oui, non, simplement, je pensais aussi aux grandes villes, c'est-à-dire que celles qui vont faire aussi le travail, ça va être beaucoup les collectivités locales, ça va être les grandes villes, parce qu'aujourd'hui, on a 50% de l'humanité qui vit dans ces grandes villes, et elles sont à la table des négociations, mais elles sont là comme intervenantes, ces fameuses grandes villes.
Non, elles ne sont pas du tout dans les négociations. En revanche, elles ont été présentes effectivement cette semaine pour rappeler que les villes, c'est 70% des efforts de réduction des gaz à effet de serre, que ce sont elles qui investissent dans les transports en commun, par exemple. Et pour le coup, là, effectivement, elles participent à la réduction des gaz à effet de serre. Mais le discours, c'était aussi de dire, à partir du moment où nous faisons des efforts pour tendre vers le neutral carbon, comme on dit ici, c'est-à-dire la neutralité carbone, pourquoi ne pas avoir accès au marché du carbone et pourquoi ne pas être rémunéré pour les gaz à effet de serre que nous n'émettons pas? Vous savez, c'est un peu une discussion de marchand de tapis ici. Hein, tout le monde veut un crédit.
Merci à vous, chère Nathalie Fontrelle. Bah, écoutez, continuez. Puis on vous retrouvera évidemment sur France Inter, France Info, dans CO2. Aucun problème. N'attrapez pas froid. Puis à très bientôt. Au revoir, Nathalie.
Elle à bientôt,
pas...
au revoir.
Ah, bah, voilà, elle n'était pas loin. Écoutez, ce qu'on va faire, on va continuer un peu le voyage, puisque là, donc, nous étions au Danemark, on va aller du côté de la Norvège. Là aussi, on va être donc avec nos énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables, juste un petit rappel, c'est vrai qu'aucune révolution technologique ne s'est jamais opérée sur la base d'un contrat international. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais là, on va s'intéresser à une centrale qui s'appelle la centrale osmotique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de centrale osmotique? Nous avons en ligne Emmanuel Sotert, qui est le président de Statkraft France et qui a inauguré il n'y a pas longtemps un premier prototype au monde en Norvège. Où se situe-t-elle, s'il vous plaît, et comment ça marche?
Alors, elle se situe sur la rive ouest du fjord d'Oslo, donc à peu près à 50 km au sud d'Oslo. Alors, une centrale osmotique, qu'est-ce que c'est? C'est une centrale qui utilise le principe de l'osmose. Vous savez, Aristote disait en son temps « la nature a horreur du vide ». Moi, je crois qu'on pourrait quasiment ajouter « en plus, elle aime bien l'équilibre ». L'osmose, c'est un phénomène naturel, donc on retrouve à l'état naturel dans la nature. C'est une force qui tend à équilibrer des concentrations différentes, dans le liquide en particulier. Donc, dans le cas qui nous occupe, et surtout donc dans un contexte de production d'électricité, on va exploiter la différence de salinité entre, d'un côté, l'eau douce, donc en l'occurrence qui vient d'une rivière, et l'eau salée, donc l'eau de mer.
Et c'est ce qu'on utilise d'ailleurs aussi pour dessaler l'eau de mer?
Exactement, exactement. Ouais. C'est le même principe. Alors, très concrètement, vous imaginez un récipient dans lequel, d'un côté, vous mettez de l'eau douce, de l'autre côté, vous mettez de l'eau salée, de l'eau de mer, et vous séparez donc ces deux masses d'eau par une membrane, donc un film, un petit film avec des millions de micro-perforations. Hein, une membrane donc qui a la propriété particulière de ne laisser passer que de l'eau douce et pas de l'eau salée. Alors l'osmose, hein, comme je disais tout à l'heure, va faire que l'eau douce va être attirée par l'eau salée du fait de ce besoin d'équilibrage, du fait de ce différentiel de concentration qui veut s'équilibrer. Et l'eau douce va passer au travers de la membrane, elle va rejoindre l'eau salée. Par contre, l'eau salée, elle, va rester sur place car la membrane ne la laisse pas passer. Alors, le résultat de cette situation, dans la mesure où c'est un caisson hermétique qui ne change pas en volume, eh bien, c'est que la pression du côté de l'eau salée va augmenter. Et là, si vous me permettez l'expression, eh bien, bingo. Pourquoi? Parce que vous avez un liquide sous pression qui peut être canalisé vers une turbine qui elle-même va entraîner un alternateur et on se retrouve dans un schéma classique de production d'électricité.
D'accord. Alors aujourd'hui, cette centrale, donc venant d'être inaugurée, on est encore à l'état de prototype.
Tout à fait, oui. C'est un prototype donc, qui a une capacité installée, comme on dit, de 10 kW. Et en 2015, c'est l'objectif en tout cas, nous pensons pouvoir installer une centrale donc, qui aura cette fois-ci une capacité commerciale avec une taille de 25 MW.
Alors, il nous faut un estuaire, il nous faut quand même un petit peu de place, beaucoup de surface pour cette usine. Est-ce qu'il y a des contre-indications avec l'environnement?
La localisation, effectivement, alors il faut effectivement se trouver une embouchure. Hein. Il faut que l'eau douce rencontre l'eau salée pour qu'on ait ce processus donc à l'état naturel. Il faut aussi, bien évidemment, un certain débit de rivière. Au niveau des avantages considérables que représente cette technologie, il n'y a pas de perturbation des écosystèmes, il n'y a pas d'émissions gazeuses, il n'y a pas de rejet dans l'eau, il n'y a pas de changement, je dirais, de la composition chimique de l'eau qui est rejetée, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit. C'est une technologie très verte.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant, Monsieur Sauterre, c'est que là, une fois de plus, on fait avec des lois de la nature et qu'une des règles numéro un de l'écologie, c'est justement l'équilibre. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette affaire-là.
Tout à fait. Alors, on travaille effectivement avec la nature et non pas contre la nature, puisque là, on exploite en fait finalement un processus naturel qui, de toute manière, se serait passé, puisque, eh bien, je dirais, à partir du moment où les rivières seront constituées d'eau douce et la mer, eh bien, d'eau salée, le phénomène d'osmose se produira partout dans le monde, dans toutes les embouchures.
Statkraft, donc, c'est le deuxième producteur d'énergie renouvelable en Europe. Alors, c'est un prototype, hein, on est bien d'accord, là, ça ne sort pas encore des kilowattheures, on l'a bien compris, mais c'est aussi une énergie tout à fait intéressante sur laquelle on travaille. Alors, un merveilleux cheval de bataille qui s'appelle l'éolien, on adore ça en France. Bah oui, évidemment qu'il y a beaucoup de critiques sur les paysages. On dit que c'est une énergie intermittente du spectacle parce qu'elle fonctionne à 30% de son temps, que l'énergie n'est ni constante ni appelable à la demande, j'en passe, et des meilleurs. Faisons un petit point parce que quand même, si on a focalisé sur photovoltaïque, avec vous, Luc Allemand, et ce que vous avez fait dans votre dossier de la recherche, et donc l'éolien, c'est parce que les estimations sont fortes en matière d'éolienne aussi. D'ici 2030, ça correspondra à peu près à 10% de l'électricité mondiale. Donc vraiment, c'est pas rien. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette affaire-là aujourd'hui?
Effectivement, l'éolien est sans doute dans ces nouvelles énergies renouvelables, puisque bon, on a développé beaucoup l'hydraulique depuis une cinquantaine d'années. La biomasse, on en a parlé aussi. Donc les deux nouvelles énergies renouvelables sont le solaire et l'éolien. L'éolien est celle qui s'est le plus développée ces dernières années. C'est celle qui est peut-être la plus prête à un grand développement. Et donc elle rencontre évidemment donc des critiques. Et une des questions, mais vous l'avez posée aussi pour le photovoltaïque tout à l'heure, est-ce que réellement cette énergie va permettre de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre?
Oui. Alors qu'est-ce que l'on fait là aussi? Vous faire un éco-bilan, parce qu'il y a la fabrication de ces fameuses éoliennes donc en amont, donc il y a de l'acier, il y a du béton, il y a le transport, il y a, bon, ça n'émet pas de gaz à effet de serre lorsque ça tourne, mais il y a quand même un bilan à faire, quoi.
Voilà, donc le vent, c'est gratuit. Ça n'émet pas de gaz à effet de serre, donc tant que les éoliennes tournent, il n'y a aucun problème. On sait dire aussi que en moins d'un an, on va récupérer les émissions de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires pour la construction et pour le démantèlement de l'éolienne. Évidemment, elle va s'user aussi, il va falloir la démonter un jour. Donc on sait faire un éco-bilan de ça. Là où il y a des discussions assez fortes, c'est que l'éolienne, c'est effectivement une intermittente du spectacle, comme le photovoltaïque. C'est-à-dire que le vent tombe, en quelques secondes, il n'y a plus rien. On ne produit plus d'électricité. Or, notre usage actuel, c'est que on branche tous nos appareils chez nous sur les prises électriques et on attend que ça fonctionne.
C'est ça.
Alors, de temps en temps, il y a des grosses pannes, mais heureusement, rarement. Et donc, en tout cas, on n'accepte pas que, en quelques secondes, toute l'électricité de la maison disparaisse et puis que peut-être dans 5 minutes, ça revienne, etc. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et donc, à l'heure actuelle, ce que l'on fait, c'est que quand on installe des éoliennes, eh bien, on installe des sources d'appoint qui sont capables de prendre très rapidement le relais. Alors, on voit bien que ces sources d'appoint, ça ne peut pas être des centrales nucléaires, parce qu'une centrale nucléaire, on ne tourne pas l'interrupteur en quelques secondes. Hein, c'est plutôt une production de fond. Donc, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est la plupart du temps, c'est d'installer des gros groupes électrogènes qui fonctionnent avec des hydrocarbures et donc qui émettent des gaz à effet de serre.
Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est 6%. Enfin, les éoliennes représentent 6% de l'énergie électrique. Faut le savoir parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas plus que ça forcément. Et puis, ils ont sorti beaucoup de, ils ont une électricité à base de charbon. Hein, donc voilà. Donc, faut arriver effectivement à peser toute cette affaire-là. Moi, ce que je vous propose, que vous parlez justement de centrales. C'est tout à fait intéressant. On va faire un petit tour du côté de l'Oise, à Verberie. C'est une commune de 3500 habitants. On est à 70 km de Paris. Et que se passe-t-il dans nos merveilleuses campagnes? Eh bien, nous avons Franck Deboise, qui est un habitant, qui a créé une association. Et donc, quel est le projet qui vous fait souci, Franck Deboise?
Alors, le projet, c'est celui de l'implantation d'une double centrale à cycle combiné gaz. Donc, ça veut dire une centrale thermique hein, qui brûle de l'énergie fossile, mais qui est d'une puissance très importante puisqu'elle fait 892 mégawatts. Mmh. Alors, évidemment, 892 mégawatts, ça ne parle peut-être pas beaucoup pour la plupart des gens. Il faut savoir qu'en termes de puissance électrique, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire française moyenne, mais sauf qu'elle va fonctionner à l'énergie fossile. Elle va brûler du gaz.
C'est une tranche de centrale, hein, c'est ça?
Alors c'est une double, c'est deux tranches de centrale et qui au total vont brûler 180 000 mètres cubes de gaz chaque heure.
Une association bien sûr s'est montée, pas de centrale en basse automne. L'automne c'est pas la saison, c'est la région.
Non, alors l'automne c'est quoi? C'est un petit affluent de l'Oise qui circule dans cette très jolie vallée qui s'appelle la vallée de l'automne. Une vallée très verte hein, puisqu'on circule entre des zones classées Natura 2000 par l'Europe et la rivière Automne se jette dans l'Oise. C'est un affluent de l'Oise.
Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous n'en voulez pas, bon bien sûr, parce qu'on peut se dire il y a un côté NIMBY, on n'en veut pas parce qu'ils vont installer cette centrale au gaz à côté de chez nous, c'est parce que c'est incohérent par rapport au Grenelle de l'environnement, par rapport à Copenhague,
enfin, Alors, il y a différentes raisons, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, personne évidemment n'a envie d'avoir à proximité de chez soi, pour les premières maisons on est à 400-500 mètres, une centrale effectivement qui va rejeter toutes ces nuisances, mais au-delà de ça, cette centrale a un double inconvénient, c'est que d'abord elle va s'implanter à moins de 500 mètres de la frontière du parc naturel régional, mais aussi parce que cette centrale va être implantée au beau milieu d'un biocorridor stratégique de l'Oise, en gros le dernier qui relie les forêts d'Alate, les forêts de Compiègne, qui est une magnifique forêt de Manial, et la forêt de Retz. Et on sait notamment, c'était affirmé par le Grenelle de l'environnement, que la protection des trames vertes pour protéger, préserver la biodiversité est absolument majeure aujourd'hui. Le commissaire enquêteur qui a mené l'enquête publique sur la modification du PLU, donc du plan local d'urbanisme de Verberie, qui est nécessaire parce que ce sont des terres agricoles aujourd'hui, donc il faut bien décider que ça devienne des terres, une zone industrielle. Et le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Il a dit effectivement, ce n'est pas le lieu pour implanter une telle centrale thermique.
Franck Deboise, aujourd'hui, on sait que EDF ne peut absolument pas assurer maintenant les pointes d'hiver, comme on dit. Donc il y a le spectre, on nous dit tout ceci, vous risquez d'avoir froid. Il nous faut d'autres centrales. Celle-ci servirait à quoi donc
Alors en fait, justement, c'est une très bonne question parce que EDF ne nous dit pas ça. Non, ce sont des gens comme Direct Énergie qui nous disent, mais ce sera le blackout, on va manquer d'électricité, cette centrale est d'intérêt général. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez par exemple un document qui s'appelle la PPI, qui est la programmation pluriannuelle des investissements dans la production d'électricité. Qui c'est qui émet ce document? C'est le ministère de l'Énergie et de l'Environnement. Que dit ce document dans la dernière édition, date de 2009? C'est qu'il nous faut, à terme, environ 10 unités de centrales au gaz pour couvrir nos besoins énergétiques, donc à l'horizon 2015-2020. Or, aujourd'hui, il faut savoir qu'entre les centrales existantes et celles qui sont déjà décidées, il y en a déjà 16 qui sont engagées.
Ah.
Et donc, celles de Verberie, les deux unités de Verberie, s'ajouteraient et ça en ferait 18, alors qu'on en a besoin de 10. On est là on va se retrouver dans une situation où finalement on aura un suréquipement en termes de capacité, une surcapacité à produire de l'électricité. Et donc forcément, ces centrales au gaz vont venir en concurrence avec le développement des énergies renouvelables qui évidemment auront beaucoup plus de mal à percer.
Franck Deboise, ce kilowatt en kilowattheure, s'y sortirait avec combien de grammes de CO2?
Une centrale au gaz, aujourd'hui, pour que l'investissement soit rentable pour, l'industriel qui aura investi dans cette usine, doit tourner au minimum 4500 heures par an. Alors, vous voyez, une centrale comme par exemple celle de Verberie, elle toute seule, elle va produire chaque année 2 600 000 tonnes de CO2. Mais il faut savoir que l'ensemble de ces centrales, finalement, vont produire finalement à terme entre 1,5 et 2,5 fois plus que le parc thermique classique aujourd'hui géré par EDF, que ce soit le charbon, le fioul, les gaz à fourneaux, les turbines à combustion.
Qu'est-ce qui vous choque le plus, Franck Deboise, dans cette affaire?
Ah, écoutez, ce qui nous choque, et si vous voulez, ce qui choque le plus les habitants de la région de Verbrugge aujourd'hui, c'est que bah, c'est le contexte de Copenhague où nous avons finalement une politique nationale qui dit bah, nous sommes, nous, la France, les bons élèves de l'Europe en termes de réduction de gaz à effet de serre. Mais sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qui est la politique qui est menée.
Et si cette centrale devait sortir de terre, ce serait le 13e site en émetteur de CO2 en France. Quelques mots rapidement, Luc Allemand, sur les réseaux intelligents. Ça, c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire que les réseaux aussi électriques et qui pourraient basculer très vite d'un mode à un autre.
Oui, bah, une des grandes différences des énergies renouvelables avec les centrales dont on vient de parler à l'instant, c'est qu'on a des unités de production plus petites et qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et qui en plus sont intermittentes. Donc il faut réussir à intégrer tout ça dans un réseau électrique avec une assurance de service électrique, c'est-à-dire que dès que vous branchez un appareil, vous avez votre courant électrique. Donc ça demande une gestion informatique intelligente du réseau électrique pour être capable d'intégrer l'électricité qui va arriver d'un panneau solaire. Parce que à ce moment-là, le propriétaire du panneau n'a pas besoin d'électricité pour lui-même, il va l'injecter dans le réseau.
D'une éolienne en fonctionnement, d'une biomasse aussi ailleurs.
Du fait que le vent va tomber et donc en quelques secondes, l'éolienne s'arrête. Tout ça, il faut arriver à l'intégrer dans le réseau électrique. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on a quelques dizaines de grosses centrales qui sont pilotées de façon relativement, comme l'on l'indique, centralisée.
Ça va être une révolution, quoi. Enfin, ça va être ça.
Une révolution et pas seulement, et ça ne pourra pas se faire simplement à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la France. Il faudra nécessairement que ça se fasse à l'échelle du continent européen.
Yves-Bruno Civel, juste un tout petit mot parce que vous êtes aussi avec nous. Vous avez créé la Fondation Énergie pour le Monde. Juste un mot, qu'est-ce que l'on fait dans la Fondation Énergie pour le Monde?
Et oui, on l'a créé il y a 20 ans et donc on a déjà électrifié plus de 1000 villages en apportant les outils pour le pompage de l'eau, pour arroser les cultures, apporter de l'électricité dans les dispensaires de santé, les écoles, des activités économiques, voilà, alimenter une machine à coudre, un moulin, éclairer un atelier de réparation de vélo, eh ben, il faut de l'énergie, il faut de l'électricité, et ça, c'est ce que nous faisons depuis 20 ans. Mais je voudrais dire qu'il y a un vrai paradoxe, c'est qu'au moment où les énergies renouvelables explosent partout dans les pays riches, eh bien, il n'y a toujours pas d'investisseurs pour aller dans les pays en développement. Et nous cherchons à faire le pas suivant. Et pour nous, le pas suivant, ce n'est pas 1000 villages supplémentaires pour les 20 prochaines années, mais c'est 100 000 villages supplémentaires pour les 10 prochaines années. Donc nous avons monté des programmes. Nous cherchons des investisseurs, nous cherchons des venture philanthropes, nous cherchons des donateurs, nous cherchons les ressorts de l'épargne solidaire. Nous cherchons désormais à amplifier ce mouvement. Les technologies sont là. Une fois de plus, les financements pour les ruraux pauvres, 2 milliards encore sur cette planète, qui n'ont pas accès à l'énergie, eh bien, on a beaucoup de mal à les trouver.
Merci beaucoup, Bruno Civel. Donc, aussi toutes les informations sur le site de CO2 Mon Amour. Un grand merci à vous, Luc Allemand. Ce numéro de la recherche, les promesses des énergies renouvelables. Merci à Céline Bonhomme, Olivier Daligo, Marion Lelay, notre assistante, Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et Xavier Pessugia qui réalisait cette émission.